sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs.
Tension, parasites et courants vagabonds. Pour donner la parole à des personnes en lutte contre l'uniformisation de ce monde, le bétonnage des terres et les diverses formes de domination qui s'exercent sur nous au quotidien.
Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous !
Bonjour à tous les auditeurs, toutes les auditrices du Saint-Africain.
Bienvenue dans cette dernière émission de l'année, Tension Parasite et Courant Vagabond. Dans la précédente émission, nous avons parlé de l'Europe de l'énergie, un réseau d'électricité qui s'étend du sud de la Russie au nord de l'Afrique. Ce projet fait rêver plus d'un industriel et bon nombre de dirigeants. La France et son beau devenir de leader international dans le marché de l'énergie. Cela s'est traduit par l'implantation de centrales de production dans tout le pays, de la construction d'un nouvel EPR à Flamanville, au développement massif des énergies renouvelables, de l'éolienne à la biomasse, en passant par le solaire et l'hydroélectricité. Sans oublier les projets de centrales à gaz et de centrales à charbon. Le tout relié par des milliers de kilomètres de lignes très haute tension qui quadrillent le territoire. Malgré que la France soit déjà excédentaire en production d'électricité, plus question de l'autonomie énergétique. Même à l'échelle d'un pays, on nous vante maintenant les mérites de la transition énergétique et l'interdépendance internationale. Très localement, cela s'est traduit par un projet de transformateur de 10 hectares à Saint-Victor-en-Millevieux prévu pour 2016 et qui aura la capacité d'accueillir l'énergie équivalente à 1000 éoliennes. 81 machines sont déjà installées dans le département et des centaines d'autres sont à venir. Le mois dernier, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Saint-Victor pour qu'ils nous fassent part de leur ressenti sur la question. Ce mois-ci, nous irons à la rencontre des habitants sous des éoliennes déjà installées pour en savoir plus sur cette industrie verte en plein essor.
Des hauteurs de Saint-Afrique, par ces fraîches nuits d'été, nous pouvons déjà voir au loin les éoliennes du Lévézou qui clignotent. Nous nous sommes laissés guider par leur lumière pour aller à la rencontre de ceux qui vivent dessous. Nous vous ferons partager leurs témoignages. Mais pour commencer, un petit point sur la situation en Sud-Aveyron. À l'heure où nous vous parlons, le nombre de mâts s'élève à 81. Des permis sont accordés pour 100 nouvelles machines. À Saint-Bolise, Marnag-et-la-Tour, Fondamente, Mélague, Arnac, Torillac, Saint-Félix-de-Sorgue, Saint-Afrique, La Panousse de Cernon, Cornus, Arc-et-Ségur, Sévrac-le-Château. Des permis sont en instruction pour 62 machines. À Brusque, Peu-et-Coufouleux, Mélague, Castelnau-Pays-Garolles, Saint-Bozély, ce qui ferait en tout 243 éoliennes pour commencer. Ces implantations de centrales éoliennes vont de pair avec la construction d'un nouveau poste de transformation d'environ 1 hectare à Brusque, un autre à Fondamente, et le renforcement du réseau déjà existant. Cette nouvelle production d'énergie sera renvoyée sur le réseau international grâce au transformateur de Saint-Victor-en-Millevieux.
Précisons que nous parlons exclusivement des éoliennes industrielles. Les machines à venir feront de 100 mètres à 120 mètres de haut pour un socle en béton de 800 à 2000 tonnes sur 20 mètres de profondeur. Elles tournent seulement pour une vitesse de vent comprise entre 10 et 85 km/h. Elles ne tournent pas quand il fait trop chaud à cause des problèmes de refroidissement du générateur, ni quand il fait trop froid à cause des risques de givre et de neige. Elles tournent en moyenne à 20% de leur capacité optimale. Cette énergie intermittente ne peut se passer des centrales à gaz pour compenser ces brutales variations de production.
Partons découvrir le Lévézou où 83 éoliennes sont déjà en fonction. Nous allons rencontrer un des membres du collectif Agir pour le Lévézou. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez en deux mots s'il vous plaît vous présenter et présenter le territoire sur lequel vous vivez ?
Voilà, je m'appelle Jean Marty, je suis agriculteur à la retraite. Je suis engagé contre les éoliennes du Lévézou, mais de partout, depuis 2008. Nous avons créé un collectif quand nous avons vu notre territoire se faire envahir par les projets éoliens de partout. Nous en avons aujourd'hui 74.
Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Agir pour le Lévézou ?
Alors l'association Agir pour le Lévézou a démarré, je n'étais pas encore branché contre les éoliennes à ce moment-là. Ce sont des agriculteurs et des habitants du Lévézou qui se sont préoccupés de protéger le Lévézou et de faire une association qui couvre tout le territoire, qui permette d'aller en justice éventuellement contre les éoliennes. Et nous avons créé un collectif après, mais c'était trop tard, déjà les éoliennes étaient déjà là. Bon, on a fait ce qu'on a pu. On a eu un préfet qui a quand même refusé 32 éoliennes le même jour, le 19 juin 2009.
Et pourquoi vous êtes contre les éoliennes industrielles ?
Parce que je me suis rapidement aperçu que c'était une erreur technique, c'était un affront écologique et un scandale financier.
Pourquoi une erreur technique ? Pourquoi un affront financier ?
Alors, une erreur technique, parce qu'on produit sur les lieux de consommation, enfin, les endroits les plus reculés, là où il y a du vent, ce n'est pas forcément les endroits les plus habités, heureusement. Mais il faut aller rejoindre les endroits, les transformateurs qui sont construits ou qui justement vont se construire parce qu'il va y avoir beaucoup d'éoliennes. Il faut aller les rejoindre pour repartir après, distribuer l'électricité avec des câbles de nouveau vers les lieux de consommation. Donc ça coûte très cher, il faut des gros câbles pour pas qu'il y ait de perte d'électricité dedans. Ça coûte très cher aux contribuables, ça coûte très cher aux consommateurs d'électricité. C'est un affront écologique parce qu'elles sont obligées d'être sur des montagnes. Bien sûr, on ne peut pas les mettre dans des vallées. On ne voit que ça. Quand on vient sur le Levezou, c'est affreux, ou qu'on regarde, on voit des éoliennes. Et puis c'est un scandale financier, parce que de toute façon, on nous fait miroiter l'argent que perçoivent les mairies ou les propriétaires terriens, mais un promoteur, un grange, je parle uniquement en termes de produits d'électricité, engrange 40 fois l'argent que perçoit un propriétaire terrien. Ne parlons pas des niches fiscales, ce qu'il y a derrière. Et en plus, bien sûr, les certificats carbone, on découvre l'ampleur des certificats carbone et de la fraude aux certificats carbone derrière. Alors c'est vrai que moi, ça me révolte, quoi. C'est qu'un problème d'argent, c'est pas un problème écologique, l'éolien.
Est-ce que vous pouvez nous décrire le processus du développement du parc éolien pour le Levezou ?
Oui, les premières éoliennes sont arrivées en 2006-2007. Elles se situaient sur un des plus hauts points du Levezou, c'est Via Rouge. 6 éoliennes, tout le monde les trouvait pas moches. Pas forcément moche, c'était plutôt un attrait pour les promeneurs du dimanche, si ce n'est qu'il les trouvait quand même grosses. Et puis petit à petit, à ces 6, se sont rajoutés les 13 que la commune de Castelnau-Péguérol a mis sur le Levezou, mais qui ne profitent pas financièrement au Levezou, puisque ce n'est pas la même communauté de communes. Puis les 29 de Salcuran, ça a été vraiment le plus gros affront écologique qu'on puisse trouver. Il y en a eu 8 à Issène-le-Truel et 5 à l'Estrade Twels. Ensuite, il y a eu les 6 de Canet de Salard et les 5 de Flavet. Le préfet a refusé en 2009 32 éoliennes. On en a 74, imaginez 32 éoliennes de plus. Et maintenant, toutes les éoliennes que l'on a ont été mises en place avant l'arrivée des zones de développement éolien, des ZDE, c'est-à-dire avant juillet 2007. Et après, effectivement, les communes du Levezou ont décidé qu'il fallait arrêter là pour le moment, on en avait assez. Et les promoteurs ont arrêté de démarcher. Maintenant que les ZDE sont supprimées, ils repartent à la charge et ils vont faire signer les propriétaires fonciers un peu partout. Il y en a certains qui refusent, comme avant d'ailleurs, il y en avait qui avaient refusé. On ne sait pas ce que ça va donner, parce qu'il y a des maires encore qui en veulent toujours plus. Alors que maintenant, depuis la suppression de la taxe professionnelle, il y a quand même une différence importante, c'est que ce n'est pas la commune qui touche le pactole comme avant, c'est plutôt la communauté de communes, ou le département et un peu la région.
Quels sont les impacts de ces installations sur votre territoire pour vous, les habitants qui vivez à proximité ?
Moi, ce qui m'a fait le plus mal au début, c'est de voir des voisins s'affronter à ce sujet. Quand on introduit le mot éolien, pas sans parler de projet éolien, quand on introduit le mot éolien dans une commune, on introduit la division. Quand on voyait des mères de famille dans les réunions d'école se trier en fonction de l'appartenance ou pas à l'éolien, quand on voyait à la CUMA la table des pro-éoliennes et la table des anti-éoliennes, on ne pouvait pas aborder le problème. En famille aussi, c'est un grave problème parce qu'on évite le sujet. On sait que dans la famille, il y a des gens qui sont pour, les autres qui sont contre. Et quand on évite un sujet, on en évite bien d'autres. On se laisse entraîner un petit peu par ce problème qui fait qu'on se visite moins, on se voit moins, ça détruit les relations familiales. Moi, ça m'a profondément choqué dès le début. Et puis, j'ai été à l'écoute, nous avons ensemble été à l'écoute des riverains parce que les riverains souffraient doublement. Ils souffraient des nuisances visuelles, bien sûr, parce qu'ils les avaient très proches, à 500 ou 700 mètres. Mais ils souffraient surtout du bruit. que font les éoliennes et que les gens en extérieur ne perçoivent pas toujours et qu'il est ridiculisé en public en disant « je ne vois pas pourquoi vous vous opposez aux éoliennes, moi j'y suis allé et je n'ai pas entendu qu'elle fasse du bruit ». Donc il souffrait de cette incrédulité des visiteurs. Et ça, c'est quelque chose, depuis qu'on a créé le collectif, on a laissé comprendre à l'opinion publique que le bruit des éoliennes, c'était difficile de le supporter. On ne pouvait pas s'y habituer parce qu'il n'était pas permanent. Et on peut avoir des éoliennes qui font du bruit, qui démarrent en pleine nuit. C'est comme si vous aviez un lave-linge dans la chambre à coucher et que vous ne pouvez pas arriver à éteindre. Voilà, c'est pareil. On a depuis fait retrouver un peu de dignité à certaines personnes qui l'avaient perdu de par le rejet qu'ils avaient de la population. Je crois que ça crée une fracture du tissu social qui est inimaginable. Nous avions suffisamment de choses qui nous divisaient dans les communes sans avoir besoin d'en rajouter. Quoi.
Dans votre brochure, quand vous écrivez que vous refusez que les villes soient sacrifiées, c'est ça que vous entendez en fait, la fracture sociale que ça peut créer sur le territoire? Ou il y a autre chose?
Mais après, quand on avait arrivé les éoliennes, on a dit, mais vraiment, quoi, tout le monde nous en veut, quoi. Le Lévezou, il est vraiment sacrifié. Et alors nous, on a dit, on refuse d'être sacrifié. Donc on a fait prendre conscience aux gens qu'il fallait se défendre. Il ne fallait pas se laisser marcher sur les pieds par des gens qui, bien sûr, avaient tout intérêt à faire en sorte que le Lévezou devienne un désert. Et puis on pourrait mettre toutes les éoliennes qu'on voudrait. Mais qu'est-ce que c'est que ça, nous? On a un territoire quand même où il y a entre 8 et 10 habitants au kilomètre carré dans les cantons de Salcurant ou de Vezin. C'est pas un désert.
Est-ce que ça a eu des impacts sur l'installation de nouveaux habitants?
Les impacts sur les installations d'habitants, oui. On se rend compte qu'aujourd'hui, ceux qui font des chambres d'hôtes se défendent pour ne pas avoir des éoliennes devant chez eux. Et quand ils apprennent qu'il va y avoir un projet, ben ils disent « mais si nous on avait su, on n'aurait pas investi ». Nous, on a été voir des agriculteurs, des personnes qui avaient envie d'aménager un gîte et qui nous ont dit « mais maintenant, c'est pas la peine, je pourrais pas ». Quand on a un gîte qu'on inscrit à Gîte de France, ils vous demandent obligatoirement de mentionner si vous avez des éoliennes pas loin. Et là, qu'est-ce que vous faites après? Les gens, ils posent des questions. Peut-être que vous arriverez à louer les périodes de pointe si vous avez un beau gîte. Mais forcément, à un moment donné, il va y avoir un impact. Parce que si ça tombe une période où le vent se lève en pleine nuit, où ils n'arrivent pas à dormir, eh bien, ils ne reviendront pas. Et ça se dit. Et aujourd'hui, avec Internet, tout se sait. Donc on sait pertinemment que ça va avoir des incidences.
Votre brochure titule « Agissons autrement pour le Lévezou ». Ça suggère qu'il y aurait d'autres perspectives, d'autres idées de développement pour ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Mais oui, bien sûr. Je pense que la balle est dans le camp des élus. Moi, je fais référence à tout le temps au Nord Aveyron, autour d'André Valadier, qui est président des 28 communes de l'Aubrac Aveyronnais, et qui un jour s'est vu confronté au problème éolien, parce qu'il y avait quand même autant de vent sûrement que sur le Lévezou, je suppose, et où deux maires se sont affrontés un jour en réunion en disant « moi j'ai envie de mettre des éoliennes, regardez, je les mets à tel endroit, moi je ne les verrai pas, de mon village je ne les verrai pas ». Et puis c'est l'autre maire de la commune d'à côté qui lui a dit « mais tu es dégueulasse, moi je les verrai ». Et comment ça part? On ne va pas pouvoir continuer comme ça si chacun tire la couverture vers soi. Il faut avoir un projet de territoire. Un projet de territoire, c'est quoi? C'est définir les priorités d'un territoire. Quelles sont les priorités d'un territoire? Ils ont réfléchi ensemble, ils ont dit « c'est la qualité de l'eau, l'air pur, l'image qu'on donne de l'Aubrac à travers ces deux critères ». La qualité de l'agriculture préservée, des emplois locaux, etc. Donc on définit un projet de territoire et puis après on dit que les éoliennes n'ont pas leur place là-dedans. Et c'est ce qui s'est passé dans le Nord-Aveyron. Pourquoi il est préservé aujourd'hui le Nord-Aveyron? Le Nord-Aveyron est préservé des éoliennes tout simplement parce que les élus ont dit que les éoliennes n'ont pas leur place sur le Nord-Aveyron. Et dans le schéma régional éolien, eh bien, le Nord-Aveyron est une zone blanche où on n'a pas le droit de mettre des éoliennes. Point. Par exemple, il y a un maire qui a dit à une réunion, on a mis des sommes colossales à enterrer les câbles électriques pour que ce soit très beau, pour qu'on ait un attrait touristique impeccable, puis maintenant on va mettre des tas de ferraille à la campagne. C'est pas faisable, c'est pas raisonnable. D'autant plus que si ça servait à quelque chose, si c'était un projet d'intérêt public, mais ce sont des projets d'intérêt privé, et que je sache, aujourd'hui ce sont des enquêtes publiques, c'est toute la différence avec les enquêtes d'utilité publique. Si l'éolien était un bien d'intérêt public, on aurait dit à un agriculteur ou à un propriétaire foncier, il y aura une éolienne là, parce que c'est un besoin pour la nation. Là, non, c'est pas ça. Imaginez le contrat qu'on propose justement à nos propriétaires fonciers. C'est le locataire, à l'occurrence le promoteur, qui a fait toutes les règles, dans un contrat qu'il propose au propriétaire. Vous avez vu ça où? Ni dans l'immobilier, ni dans l'agricole, on a de ce type de contrat. C'est incroyable. Et les agriculteurs, je dis les agriculteurs, les propriétaires fonciers qui ont ce contrat en main, souvent ne le lisent pas ou ne comprennent pas tout ce qui est écrit. Parce qu'il a été fait par des professionnels. Les agriculteurs, souvent, sont très démunis. Moi, je connais même des gars qui avaient un contrat de 4 pages qui faisait référence à un contrat de 40 pages. Sur le contrat de 40 pages, il y avait tout. Mais l'agriculteur n'avait lu que les 4 pages. Donc, il était perdu. Et il avait signé n'importe quoi. J'allais dire, il avait signé n'importe quoi parce qu'il n'avait pas tout lu. Et il avait 7 jours pour se rétracter, comme quand on achète un lave-linge. Alors qu'il venait de signer un bail emphytéotique. Voilà. Voilà aujourd'hui l'arnaque financière. Je les plains, moi je ne voudrais pas être à leur place et j'aurais pu être à leur place. Parce que moi je suis propriétaire foncier et quand les premiers projets sont arrivés, on serait venu me voir. Je suis à peu près sûr que j'aurais signé moi aussi.
Quelles sont les actions qui sont menées par votre collectif et qu'est-ce que fait l'opposition ?
C'est très difficile de mobiliser sur ce sujet quand on est dans un secteur comme le Lévezou, où il y a énormément de propriétaires fonciers qui vivent de l'agriculture difficilement et qui ont envie de voir un complément de revenus. Et on leur propose 6 000 euros par éolienne et par an. Ils n'ont pas encore perçu le chèque, qu'ils savent déjà ce qu'ils vont en faire. Alors, vous savez, je me mets à leur place aussi. Hein. Nous, on a misé notre position d'abord sur l'information des médias. Au début, on avait des articles qui nous étaient défavorables, où les promoteurs profitaient un petit peu de la belle image de l'éolien. Alors, on a fait des actions. On avait fait en 2009 pour mettre un petit peu la pression sur le préfet, qui aurait pu signer pour 32 éoliennes. On avait fait la ronde des éoliennes, où il y avait eu quand même 100 voitures. Alors, ça représentait à peu près 2 personnes par voiture, ça représentait 200 personnes. On avait fait la ronde des éoliennes, on avait fait le tour des villages qui étaient impactés, qui risquaient de l'être. Et ça avait eu un retentissement médiatique important. Donc, on n'existe pas sans les médias, de toute façon. Les médias ont besoin de s'intéresser à ce qui se passe sur un territoire, s'ils veulent garder des abonnés ou des auditeurs. Mais nous, on a besoin des médias. Donc, on s'est rendu compte qu'on était complémentaires. Et là, on s'est appuyé sur eux. Et je crois que ça n'a pas trop mal marché. On a rencontré beaucoup de personnes en ville qui disaient « Mais moi, j'ai découvert le problème à travers vos actions. » Et effectivement, le préfet, on a eu un préfet, Vincent Bouvier, qui a refusé quand même 32 éoliennes sur le Lévezou, mais qui n'est pas resté longtemps du coup. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je pense que ça a dû jouer aussi. On va à la catastrophe si on laisse en France s'implanter 20 000 éoliennes. La France est le pays touristique quand même le plus recherché par les touristes étrangers. Et nous, on a un attrait touristique quand même important. Hein. Le Lévezou, le Sud-Aveyron, je crois que le département de l'Aveyron a fait une campagne à l'époque, on ira tous en Aveyron. Aujourd'hui, il faudrait savoir qu'est-ce qu'ils veulent les élus. Mais moi, je suis persuadé qu'on va à la catastrophe à ce niveau si on laisse continuer l'implantation d'éoliennes sur notre département. Pour nous, c'est un appauvrissement de la région sur le long terme. L'éolien, c'est que du court terme. Quand on raisonne le court terme, on peut être pour l'éolien, pour l'argent qu'il amène. Mais sur le long terme, quand il y a un pays qui se vide, quand vous avez des artisans qui vous disent « Mais moi, mes enfants, à côté des éoliennes, ils ne veulent pas venir s'installer. » Quand un agriculteur vous dit « Moi, mon fils, il avait envie de faire agriculteur. Il a été salarié jusqu'à ce que j'arrive à la retraite. Maintenant, il ne veut plus venir s'installer là. » Qu'est-ce que vous voulez faire sur le long terme? On sait bien que c'est une catastrophe pour l'économie locale. On a l'impression qu'ils veulent créer un désert pour pouvoir en mettre davantage. Mais nous, on résiste.
Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont partis. Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livrée, grandie et fleurie. Dansant et livrés au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne.
Merci à Jean Marty pour son intervention. Vous êtes bien sur Radio Saint-Afrique. Continuons cette émission de Tension Parasite Écho en Vagabond. Pour compléter ce témoignage, nous vous laissons entre les mains du docteur Bruel.
Alors nous sommes avec le professeur Jean-Michel Bourrel. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Oui, je suis professeur à la faculté de médecine de Montpellier et je suis radiologue des hôpitaux, actuellement avec une position de consultant au CHU de Montpellier sur chargé des relations avec les usagers.
Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Académie nationale de la médecine ?
L'Académie de médecine, c'est une académie au même style que des académies littéraires qui regroupe une des membres élus qui sont considérés par leur père comme ayant qualité à réfléchir sur des problèmes de médecine et des problèmes de santé pour le public. C'est une académie médicale. Donc ce n'est pas une structure gouvernementale ou ministérielle, c'est une structure professionnelle de médecins, donc de médecins élus par leur père et qui, dont les avis font autorité lorsqu'ils sont demandés.
Pourquoi vous êtes-vous penché sur la question des impacts sanitaires des éoliennes industrielles sur la population ?
Alors en fait, j'ai été contacté par le collectif Agir sur le Lévézou, parce que d'abord je suis Aveyronnais, ensuite je connais bien le Lévézou, qui est ma terre natale. Moi je suis né à Millau, mais je suis issu du Lévézou. J'ai été contacté par le collectif qui m'avait demandé d'essayer d'aider le collectif dans une argumentation sur les nuisances pour la santé de l'implantation d'un parc éolien notamment surdimensionné.
Actuellement, que disent les études sur justement les impacts sur la santé des éoliennes industrielles ?
Alors si vous voulez, quand on parle des troubles possibles sur la santé, on a en général tendance à inclure dans ces troubles des choses qui peuvent ou pourraient avoir un impact. Jusqu'à aujourd'hui, n'ont été démontrés ayant un impact sur la santé que des nuisances sonores. Simplement, si vous voulez, les nuisances sonores, il faut voir ce qu'elles induisent. Les nuisances sonores, c'est pas simplement le fait d'entendre du bruit au-delà d'une certaine norme. Les nuisances sonores, ça veut dire derrière des troubles dont on sait qu'ils sont en général importants quand ils sont vécus sur la durée, parce qu'ils entraînent des troubles du sommeil, une fatigabilité et éventuellement des conséquences secondaires qui sont plus ou moins compliquées.
Alors en mars 2006, l'Académie nationale de médecine a fait un rapport sur les nuisances. Quelles sont ses conclusions ?
La conclusion essentielle du rapport, c'est que tant que n'ont pas été démontrées par des études précises de terrain, des innocuités en termes de nuisances sonores, l'Académie nationale de médecine recommande que l'implantation d'une éolienne, d'un générateur, donc, ne soit pas faite à moins de 1500 mètres d'une habitation existante.
Et comment sont prises en compte ces recommandations par les autorités et par les lobbies pro-éoliens ?
Ça a été très simple et très rapide, c'est-à-dire que dans les jours qui ont suivi la publication de la recommandation par l'Académie, elle a été vivement attaquée par tout ce que compte le lobby éolien, en disant que c'était des mesures de protection aberrantes, que ça n'avait pas lieu d'être, etc. Je pense que ça, c'est une réaction de type politique de la part d'un lobby. À l'inverse, quand on se repenche sur le problème des nuisances sur le terrain, on s'aperçoit que chaque fois qu'un riverain démontre des nuisances et qu'on est dans une situation où n'est pas respectée la recommandation de l'Académie de médecine, en général, le promoteur essaie de trouver un compromis pour limiter les nuisances décrites par le riverain. Ce qui, quelque part, veut bien dire que ces nuisances existent. Quand un promoteur décide, par exemple, d'arrêter un générateur lorsqu'il y a telle orientation de vent, ça veut dire qu'il reconnaît qu'avec telle orientation de vent, il y a des nuisances sonores significatives pour le riverain. Alors, il faudrait que ceci soit appliqué aussi aux nuisances sonores générées par par un ensemble de générateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des éoliennes qui sont à des distances relativement réduites les unes des autres, et que, je veux dire, il y a une sommation du bruit de pales, notamment lorsqu'on est en conditions défavorables, par exemple par le fait que le bruit est porté par telle ou telle direction de vent, ou telle ou telle puissance de vent. On a de multiples exemples où, lorsque les riverains ont avancé une nuisance sonore qui était vérifiable sur le terrain et qui rentrait dans un cadre de non-respect de la recommandation d'éloignement du générateur par rapport à l'habitation concernée, il y a des propositions faites par le promoteur pour essayer de réduire cette nuisance. Mais jamais le promoteur ne reconnaît la nuisance sur un plan général. Il essaie toujours de la traiter à l'amiable avec le riverain concerné, de manière à étouffer au cas par cas les plaintes les plus significatives.
Est-ce que vous estimez que les études menées par les prometteurs éoliens sont-elles suffisantes ?
Moi, je pense que, vous savez, quand quelqu'un fait une étude et la publie, c'est qu'en général, il veut que ça serve ses intérêts. Les intérêts des promoteurs de l'éolien, c'est pas de réduire l'implantation des générateurs éoliens. Donc, les études publiées par les promoteurs éoliens sont des études qui donnent des résultats qui intéressent les promoteurs de l'éolien. Quand on regarde un peu plus près, c'est des études modélisées qui ont été faites en terrain plat, dans des conditions qui sont souvent d'ailleurs des conditions des pays de l'Europe du Nord et notamment des pays scandinaves, où le relief et les conditions de développement des nuisances sonores n'ont absolument rien à voir avec l'implantation dans tel ou tel lieu dans lequel existent des vallonnements, des versants, et où, sur le terrain, tous ces éléments-là viennent jouer. Si vous prenez l'exemple d'une part du parc éolien du Lévezou, et notamment celui dit de la commune de Castelnau, il est bien évident que les conditions d'implantation font que les nuisances ne concernent en rien les habitants de Castelnau-Pégayrol, alors qu'en fait, elles concernent surtout le versant opposé, où d'ailleurs se situent les riverains les plus proches.
Aujourd'hui, que dit la loi sur les études qui doivent être faites quand on installe un parc ? Comment ça se passe ?
Je crois qu'aujourd'hui, la loi n'a rien repris en termes de nuisances pour la santé. Je pense qu'aujourd'hui, les recommandations de l'Académie de médecine ne se sont pas traduites par des textes réglementaires concernant l'éloignement des générateurs par rapport aux habitations existantes, parce que ce serait trop contraignant pour les promoteurs. Et donc, du coup, on est dans une situation dans laquelle le législateur se tait, parce que sinon, s'il appliquait les recommandations et s'il les transformait en textes réglementaires, ce serait trop contraignant pour les promoteurs.
Thank you.
Est-ce que vous avez connaissance d'autres médecins ou d'autres organismes qui ont fait des études sur les impacts des éoliennes sur la santé ?
Alors, il y en a peut-être, notamment à l'international, mais moi, pour l'instant, celle sur laquelle je me suis appuyé, c'est celle que je vous cite de l'Académie nationale de médecine. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres choses depuis, puisque finalement, la recommandation de l'Académie de médecine, c'était que l'on fasse des études réelles de terrain. Les études réelles de terrain, elles supposent d'être faites avec à la fois les riverains concernés et les promoteurs.
Ça fait plus de 10 ans que de nombreux parcs éoliens se développent en France. Comment on peut expliquer qu'il y a aussi peu d'études sur le territoire depuis aussi longtemps ?
Ben ça, c'est un problème de pouvoir de groupe. Hein. C'est que probablement le groupe qui constitue ce que l'on appelle communément le lobby pro-éolien est plus puissant auprès des décideurs politiques locaux, régionaux et nationaux que le groupe des gens concernés directement sur le terrain. Que les gens sur le terrain, on leur sert un discours de l'utilité publique, les individualités ne peuvent pas aller au-delà de l'intérêt contre l'intérêt collectif, etc. Enfin bon, toute chose qu'on connaît quand même. Je pense que si j'avais rajouté quelque chose, je dirais 2 choses. Le premier écueil aujourd'hui, c'est celui de la densification du parc. Et la densification du parc, elle se fait finalement en prenant des options qui vont contre l'essaimage éolien. Ce qui peut s'entendre, hein. Mais ça veut dire qu'on considère qu'il y a des régions que l'on ne doit pas polluer avec des nuisances liées à l'éolien. À un moment donné, il y a eu des responsables, des élus locaux régionaux qui ont dit « Non, on ne peut pas en mettre là, on va massacrer l'aspect esthétique du coin. » Et que par contre, les endroits où on a commencé à mettre ces nuisances, alors là, on peut y aller parce qu'il vaut mieux concentrer les nuisances là-dedans. Quand même, ça soulève 2 questions. Ça soulève la question de la quantité d'aérogénérateurs concernés et de la sommation des nuisances, hein. C'est-à-dire que si vous avez une ferme et si à 800 mètres au-dessus vous avez une éolienne, c'est pas la même chose que si vous en avez 3, c'est pas la même chose que s'il y en a 10, et si ce que vous entendiez par vent du midi, vous l'entendez aussi par vent de nord-ouest. La densification du parc pose des problèmes quand même de ce type. Elle pose aussi des problèmes qui ne sont pas des problèmes sanitaires immédiats, qui peuvent être discutés pour l'avenir. Mais quand on discute dans l'avenir, on vous dit nos enfants s'en préoccuperont. Mais c'est celui des friches industrielles, quoi. Aujourd'hui, l'intérêt des promoteurs, c'est d'implanter de l'éolien, d'en tirer le maximum de profit. Et puis, la manière dont ceci devra être géré, remplacé, démantelé, etc., ce n'est absolument pas leur problème. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième que je pourrais rajouter, c'est celui qui fait que la manière dont ont été gérées les autorisations, ça va contre la bonne vie sociale. Je m'explique. Vous ne pouvez pas accorder des subventions d'implantation à une commune qui implante les générateurs complètement à la périphérie, en limite de sa commune, un endroit où les nuisances sont supportées par la commune voisine, qui elle, ne reçoit aucun dividende par rapport à l'implantation. C'est quand même un peu facile, quoi. Donc je crois que ça commence à évoluer. Mais le minimum que l'on pourrait exiger, c'est que quelqu'un, personne physique ou une collectivité, qui tire des intérêts économiques de l'implantation d'un mât éolien, il puisse être non seulement le propriétaire du terrain sur lequel c'est implanté, mais le riverain immédiat de ces installations. Il y a une part de compensation de nuisances. C'est pas normal que les gens qui subissent les nuisances n'aient pas ces compensations. Et les éoliennes, ça a divisé sur les Vesoux. Et je pense que ça, c'est pas très bon, parce que ça sert le promoteur que ça divise. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est trouver des gens qui sont pour, parce que d'abord ça leur permet d'implanter, puis ça leur permet de contrer l'argumentation des autres. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les gens qui étaient pour, il y a des gens qui en sont quand même revenus, hein, qui aujourd'hui sont activement contre, parce qu'ils se sont rendus compte que dans la vie quotidienne, ils se sont fait flouer par l'argumentation qu'on leur avait donnée. Ils ont peut-être les indemnités qu'on leur avait promises, mais ils ont aussi des nuisances qu'on leur avait cachées. Donc l'argumentation, si vous voulez, de concentration sur des parcs existants est certes technique et technico-économique, mais elle est aussi politique vis-à-vis de l'acceptation, entre guillemets, par les riverains. À un moment donné, il y a eu des responsables élus locaux régionaux qui ont dit « Non, on ne peut pas en mettre là, on va massacrer l'aspect esthétique du coin ». Il y a des éoliennes implantées, il y en a beaucoup sur l'Aveyron en général. Moi, j'ai rencontré le préfet de l'Aveyron de l'époque, qui s'était déplacé sur le terrain sans prévenir de sa venue, ce qui veut dire qu'on n'avait pas le temps d'arrêter les générateurs. Il a demandé à venir des jours où il y avait du vent du midi. Il a constaté, lui, directement les nuisances. Après, vous avez un mouvement de fonctionnaires. On remplace le préfet par un autre préfet, en l'occurrence une préfète. Puis, on fait casser un jugement défavorable. Mais ça, c'est uniquement des pressions de lobby, quoi.
On remercie bien chaleureusement le docteur Jean-Michel Bruel pour son témoignage. Et on vous laisse pour une petite pause musicale avec Brigitte Fontaine.
Nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux. Dénouez-nous, dénouez-vous, dévouez-nous, dévouez-vous, vouez-vous à nous, vouez-nous à vous. Déjouez-nous, déjouez-vous, avouez-nous, avouez-vous, nouez-vous à nous, nouez-nous à vous. Nous sommes tous nous, vive-nous. Nous sommes tous vous, vivons-nous. Fions-nous à nous, louons-nous, donnons-nous à nous, chantons-nous. Nous sommes des fous,
nous sommes des fous, vous et nous. Nous sommes très doux,
nous sommes très doux, vous et nous.
Nous sommes des loups,
nous sommes des loups, des sommes des loups, nous sommes des poux, des bijoux.
Nous sommes toujours sur Radio Saint-Afrique au cœur de l'émission Tension, Parasites et Courants Vagabonds, consacrée ce mois-ci à l'éolien industriel. Selon le syndicat des énergies renouvelables, si cette industrie peinait jusqu'alors à se développer dans notre pays, c'était, je cite, « à cause de la complexité réglementaire et l'insécurité juridique du cadre économique ». En septembre dernier, lors d'une conférence entre industriels et gouvernants, il a été convenu de simplifier le cadre réglementaire pour que la France devienne, elle aussi, un champion industriel de l'éolien terrestre. Reste alors au pouvoir public à simplifier et stabiliser la filière, disent-ils. Il existait les ZDE, zones de développement éolien, définies par les communes. C'est dans ces zones uniquement que les investisseurs bénéficiaient du rachat de l'électricité au tarif fixé par le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire plus de 8 centimes du kilowattheure, avec une garantie de rachat pour 10 ans de la part d'EDF.
Aujourd'hui, avec l'assouplissement de la réglementation et la suppression des ZDE, les promoteurs pourront installer des éoliennes partout où ils estiment que la zone est favorable avec l'accord du propriétaire. Avec la suppression des ZDE, les décisions d'implantation vont se prendre à l'échelle de la préfecture et non plus des communes. Et quand l'on voit ce qui s'est passé pour l'ancien préfet de l'Aveyron, Vincent Bouvier, comme en témoignent nos deux intervenants, qui après avoir refusé 32 machines de plus sur les Vézoux s'est vu muté ailleurs, hasard ou coïncidence, on peut se demander où se prennent réellement les décisions. Plus proche de nous, en amont du chantier, une étape obligatoire, celle de l'enquête publique. Elles sont orchestrées par des commissaires enquêteurs triés sur le volet par la préfecture. Comme nous l'a confié l'un d'eux, ce sont uniquement les commissaires enquêteurs, conciliants, autrement appelés les commissaires oui-oui par certains de leurs confrères, qui sont sollicités pour ces enquêtes publiques. Quant aux réunions d'information, elles sont bien souvent organisées par les promoteurs eux-mêmes, au détriment des associations militantes qui rencontrent des difficultés pour la location des salles. C'est ainsi qu'une asso s'est vu refuser la salle des fêtes de Camarès en 2007 pour une soirée d'information. Toutes ces façons de procéder peuvent nous laisser sceptiques sur l'honnêteté et la bonne foi de ceux qui mènent ces projets.
Allons donc voir du côté des promoteurs, pour en savoir plus sur le profil de ceux qui investissent dans l'industrie éolienne. Un militant de l'Allier va nous partager les fruits de ses recherches à ce sujet.
Alors, il faut bien comprendre qu'il y a trois catégories de gens qui investissent dans l'énergie éolienne. Il y a les exploitants de centrales thermiques, les spécialistes du nucléaire et les petits promoteurs. Alors, on va commencer par les exploitants de centrales thermiques. Le plus gros investisseur exploitant de centrales thermiques dans le département, c'est Gaz de France, qu'on appelle maintenant Gaz de France Suez. Quand je vais sur la page d'accueil de Gaz de France sur Internet, qu'est-ce que je vois? Je vois une éolienne, Gaz de France Suez, premier producteur éolien en France. L'éolien, pourtant, ne représente pas grand-chose, c'est que 1% de leur production. Alors pourquoi est-ce qu'ils continuent dans l'éolien? Pour sauver la planète? C'est pas sûr. Il y a peut-être une autre raison. Vous voyez là la production totale des éoliennes en France pendant le mois de décembre. C'est jour par jour. Et il y a un point toutes les 3 heures. Et vous voyez que cette production, elle est très éolienne. On le suit dans tous les fils et tout, dans tous les transformateurs, et on est sûr que c'est bien l'électron d'éolienne qui arrive chez vous. Mais je ne connaissais pas la couleur de l'électron. J'ai appris maintenant qu'il y avait des électrons verts. Les autres, je ne connais pas leur couleur.
Et quand on voit la tournure que prennent les événements en Allemagne, où le développement massif de l'éolien demande un besoin croissant de gaz et qu'ils commencent à extraire le gaz de schiste, on a de quoi se poser quelques questions.
Les énergies renouvelables sont un marché qui a le vent en poupe, comme est fier de nous l'annoncer le syndicat des énergies renouvelables. Pour la première fois, en 2010, les investissements réalisés dans le secteur ont dépassé 200 milliards de dollars. Toutes les filières du renouvelable bénéficient de cette dynamique de croissance, en dépit des crises et des interrogations régulières sur leur pérennité. Il faut croire que certains ne connaissent pas la crise.
Au vu des subventions pour le rachat de l'électricité, c'est déjà une affaire plus que rentable, payée, ne l'oublions pas, par le contribuable. C'est cette fameuse CSPE, Contribution au Service Public de l'Électricité, que nous payons chaque mois. Tout ça sans compter les fameux certificats verts, autrement appelés crédits carbone, qui sont une grosse supercherie très très rentable.
L'arnaque des crédits carbone. Petit voyage dans le temps, nous sommes en 1997 au sommet international de Kyoto et pour lutter contre le réchauffement climatique, les grandes de ce monde adoptent un curieux mécanisme. Les pays, les entreprises se voient attribuer des quotas de CO2, des droits à polluer, ça c'est très bien, sauf que ceux qui ne consomment pas tous leurs crédits pollution sont autorisés à les revendre à ceux qui en ont besoin. En clair, les plus pollueurs rachètent aux moins pollueurs. Bref, on a créé un marché des émissions de CO2 qui représenterait aujourd'hui, selon Europol, près de 90 milliards d'euros de transactions. Sur le papier, why not? Sauf que ce système a inspiré à certains petits malins des malversations, des manipulations écologico-financières à n'en plus finir. Au final, certains se sont enrichis et la planète, elle, a continué de se réchauffer avec la complicité des instances internationales. Encore tout récemment, d'ailleurs, le 18 avril dernier, le Parlement européen a rejeté une proposition qui réclamait justement le gel de ce système pervers.
Les pays qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre doivent acheter des permis de rejet de CO2. Et ceux dont les émissions sont faibles peuvent vendre leurs quotas excédentaires. Ce système d'échange de quotas vise à encourager les technologies propres. Cet instrument de politique environnementale a été créé dans le cadre du protocole de Kyoto en 1997. Pourtant, au lieu de diminuer de 5% au niveau mondial, les émissions de CO2 ont augmenté de 40%.
Le commerce des émissions de CO2 est un choix très dangereux, car il revient à soumettre l'environnement à un mécanisme de marché, régi par la loi de l'offre et de la demande. Résultat, l'environnement se voit attribuer une valeur financière.
l'Union européenne attribue gratuitement un quota annuel de permission d'émission de CO2 à certains sites industriels. Ce quota diminue année après année. Les entreprises qui dépassent le volume d'émissions allouées doivent acheter des crédits sur le marché du carbone. À l'inverse, les entreprises qui ont des crédits excédentaires peuvent les vendre sur le marché en réalisant ainsi un bénéfice.
Ce que vous voyez à l'écran, c'est notre plateforme boursière appelée WebICE. C'est celle qu'utilise la majorité de nos clients pour échanger des droits d'émission sur les marchés mondiaux du carbone. En regardant l'écran, au moment où je vous parle, on voit que 10 000 traders environ sont en train d'effectuer des transactions sur notre plateforme. Chaque crédit carbone donne aux acheteurs l'autorisation, sous forme dématérialisée, d'émettre une tonne de CO2.
En un seul clic, des courtiers issus de toute l'Europe peuvent ainsi approvisionner les entreprises en droits à polluer.
Le marché européen du carbone est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Comme n'importe quelle autre bourse de marchandises, il est donc influencé par les événements macroéconomiques.
Crise économique, spéculation, fraude. Depuis la mise en place du marché européen du carbone en 2005, le prix de la tonne de CO2 n'a cessé de diminuer pour atteindre aujourd'hui des niveaux on ne peut plus bas. La chute vertigineuse des prix du CO2 préoccupe aussi les opposants au système, comme Alice Vincent et Jacob von Uexke.
La seule façon de sauver notre planète est-elle de tout privatiser. Même les droits à polluer deviennent une propriété privée maintenant. Comme beaucoup de personnes, je pense que c'est une erreur fondamentale. L'idée selon laquelle on peut seulement sauver l'environnement si c'est lucratif pour quelqu'un, c'est tout à fait absurde.
Cet ancien député écologiste allemand analyse depuis des années le marché du carbone.
Les industries vertueuses ne reçoivent rien en récompense de leurs efforts. Mais celles qui ont émis pendant des années des quantités énormes de CO2 et qui tout à coup se mettent à en économiser peuvent réaliser de gros bénéfices. C'est aberrant. À mon avis, beaucoup de ces mécanismes ne fonctionnent pas et sont frauduleux.
Pour le monde de la finance, en revanche, le commerce des droits d'émission est florissant. En juillet 2012, nous interviewons un courtier en bourse à Düsseldorf. Il achète et vend des crédits carbone pour le compte de différentes entreprises.
Du point de vue de l'exécution des transactions, ça ne fait pas une grande différence pour moi si je négocie de la poitrine de porc, de la farine de soja ou autre chose.
Vous ne négociez plus de l'or ou du charbon, mais seulement des émissions de gaz à effet de serre avec de l'air chaud et pollué.
C'est exact.
Est-ce que c'est une activité rentable?
Ça dépend pour qui. C'est rentable pour les traders, bien sûr, et aussi pour les investisseurs. Si j'achète des crédits carbone dans une période où les cours sont bas, pour les revendre ensuite quand les cours remontent, c'est une bonne affaire, évidemment. D'autant qu'on a quand même de très grandes variations. Il ne s'agit pas seulement de 1 ou 2%, ça peut atteindre 20, 30%, voire des pourcentages à trois chiffres.
Le sauvetage du climat est donc soumis au libre jeu des forces du marché.
C'était un petit extrait d'un documentaire d'Arte consacré au crédit carbone paru récemment à la télé, pour mieux comprendre ce que sont ces certificats verts et leurs dérives financières.
Nous pourrions nous réjouir que notre région contribue largement au développement durable et à la sortie du nucléaire tout en sauvant un monde rural dépérissant. Cependant, on vient de le voir, par tous ces témoignages, il n'en est rien. La belle image de l'éolien se ternit au fur et à mesure que les projets avancent.
L'Aveyron, comme bon nombre de territoires ruraux, peu densément peuplés, est perçu par les promoteurs comme un formidable gisement de vent à exploiter. Certains élus les accueillent bras ouverts, avançant qu'ainsi nous sauverons le monde rural. Encore une fois, l'industrie nous promet monts et merveilles. Mais nous qui vivons là, voyons bien d'autres richesses dans ces territoires. Et il nous paraît bien triste de l'abandonner aux mains de l'industrie, aussi verte soit-elle.
Le développement de l'éolien industriel s'inscrit dans un mouvement de libéralisation totale de la production d'électricité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui implante ces énergies renouvelables, mais toujours des entreprises privées qui se raccordent ensuite au réseau public. Si elles font ces investissements, ce n'est pas par conviction, mais parce que l'éolienne est l'un des investissements les plus rentables du moment, d'autant qu'il est hautement subventionné par l'État et l'Europe, grâce au rachat de l'électricité à prix élevé et à l'octroi des certificats verts, les fameux crédits carbone, sorte de bons à polluer qui attirent les entreprises polluantes qui se les échangent sur les marchés des bourses européennes.
Un collectif Stop Éolienne, regroupant de nombreuses associations anti-éoliennes, s'est constitué en Sud-Aveyron pour faire un travail de recherche et d'information, afin que tout un chacun puisse se positionner en connaissance de cause. Vendredi soir, ils étaient à Camarès pour une réunion publique. N'hésitez pas à les contacter sur leur mail stopeolienne@riseup.net pour plus d'infos. N'oublions pas que sans l'accord des propriétaires, les parcs éoliens ne passeront pas. Nous avons aussi une petite pensée pour les deux agricultrices de Saint-Victor-et-Melvieux, qui quant à elles risquent l'expropriation au nom de l'utilité publique pour servir des projets privés. Elles sont convoquées au tribunal début juillet. Nous espérons être nombreux et nombreuses à les soutenir. C'est ainsi que se termine la dernière émission de l'année de Tensions, Parasites et Courants Vagabonds. Nous espérons vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bon été à vous et à bientôt.
Ciao à tous les auditeurs, à bientôt. Oh, you little, 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 little